Si vous êtes étonné de me voir là, dites-vous bien que je suis le premier étonné. Et le Seigneur m'a gardé, m'a préservé, m'a ramené pratiquement des portes de l'éternité. Et je pense qu'ici, il faut que je fasse une parenthèse dans la parenthèse, c'est de vous dire à vous, beaucoup d'entre vous, un grand merci d'avoir prié et intercédé. Je suis conscient de ce que ma femme et moi, nous en sommes conscients, que nous avons été portés. Je suis toujours étonné, chaque jour. Mais bon, j'en suis heureux et je veux que le Seigneur soit honoré. C'est uniquement dû à sa grâce. Je n'ai pas mérité, mais j'ai hérité de sa grâce, de sa bonté. Et j'en jouis. Et je pense que c'est tout ce que je veux dire sur ce chapitre-là. Et puis, je suis aussi étonné d'être là parce que c'est pas évident. Je me suis demandé, mais pourquoi moi d'ailleurs, quand qu'est-ce qui m'a téléphoné ou j'ai téléphoné, je crois que c'est à Samuel. Je dis, mais pourquoi moi? Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Mais bon. Ah oui, il m'a dit que j'étais encore un peu vert, c'est ça? Oui. Cet avis, ce n'est pas moi qui l'ai concocté. Mais je suis heureux d'être là, bien sûr, et de parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette dernière rencontre. Vous dire des choses qui n'ont pas déjà été dites, c'est peut-être un petit peu difficile, mais je vais essayer en tout cas. Et je vous invite à suivre la lecture ou à lire avec moi un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et ceux qui connaissent bien leur Bible savent très bien de quoi il s'agit avant de tourner la page. Matthieu 25, les 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Non. » Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Vous savez, j'ai commencé à vous parler, mais il n'est pas dit que j'aurai le temps de finir. Combien serait heureux. Eh oui. Et je me demande combien de sièges seraient encore occupés. Qui va rester sur sa chaise alors que les autres seront enlevés? Le sujet que l'on m'a proposé de traiter, bien sûr, relève, comme vous le savez, de la prophétie. Donc, des événements encore à venir dont l'Écriture nous parle. mais dont l'interprétation est hasardeuse et parsemée d'embûches. De nombreux livres ont été écrits, et il y en a certainement sur probablement toutes les tables qui sont là autour de nous, écrits par d'éminents docteurs et de loin plus qualifiés que moi, et qui interprètent dans des sens divers des textes qui, en apparence, soutiennent aussi des points de vue très variés, voire même opposés les uns aux autres. Nous pourrions même dire que Dieu nous propose une charade géante, sans doute pour nous obliger à constamment évaluer notre ouvraille et ne jamais dire ou penser que nous avons tout compris. Et puis surtout, il veut que nous soyons toujours alertés, en attente, dans l'expectative, puisqu'il nous dit qu'il peut revenir à tout moment. Un peu comme ces gens, en particulier dans cette région de Charleroi, n'est-ce pas, qui, en temps de grève, attendent l'arrêt du bus, ne sachant pas quand il va passer. Depuis que je me suis mis à étudier ou à réétudier ce sujet, je me suis demandé pourquoi j'ai été si inconscient, si téméraire à accepter de traiter un passage de l'histoire non encore vécu, et pourtant déjà fixé et exposé en partie dans des prophéties bibliques, parfois, sinon souvent, difficiles à déchiffrer. Je ne vais pas tenter d'étoffer votre savoir, d'autres sont bien mieux doués que moi, mais j'en profite quand même pour nous alerter, puisque l'occasion nous est donnée, quant à l'urgence de proclamer la bonne nouvelle. On l'a quelquefois déjà souligné cet après-midi. Proclamer l'Évangile, car bientôt le temps aura expiré. Le royaume à venir, puisque c'est là le sujet de cette convention, fait, à mon sens, partie intégrante de l'eschatologie. Et à dire vrai, quitte à vous surprendre ou à vous décevoir, j'avoue que ce qui va se passer, se vivre sur la terre, dans l'histoire des hommes, aussi terrible que ce sera, ne me préoccupe pas outre mesure, étant donné que je crois que je serai, avec les élus de l'Église, enlevé, donc absent de la terre, en tout cas en un premier temps. Oh, il y a d'autres interprétations théologiques sur le sujet, je le concède, qui vont dans d'autres directions. Et je serai curieux de voir, à la conclusion de notre histoire, qui aura les bonnes notes. Oh, j'ai beaucoup cogité, tourné dans tous les sens et examiné sous toutes ses facettes le titre que l'on m'a proposé. Et ce fut déjà là tout un exercice. Samuel le sait. Et je ne suis pas encore certain d'avoir très très bien compris. Tant pis pour vous, mes amis, si vous vous attendiez à autre chose. Voyez-vous, ce que je trouve essentiel, vital, impératif aujourd'hui, c'est de présenter le message de l'Évangile, le salut en Jésus-Christ, maintenant, afin que le plus grand nombre soit sauvé et par conséquent enlevé dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Ainsi que dit l'apôtre Paul d'ailleurs aux Thessaloniciens, au moment où la trompette retentira et où le Seigneur lui-même descendra du ciel. L'urgent, pour ce qui nous concerne, mis à part bien sûr d'être prêt soi-même, c'est que le plus grand nombre de ceux qui nous entourent le soient aussi. Et ce panneau nous rappelle que tout doit être fait avec cela en point de mire. Mes parents, des étudiants férus de la prophétie biblique, m'ont transmis cette notion d'attente de sa venue. Si bien qu'il m'est arrivé, bien des fois, de croire que le Seigneur était venu, que mes parents avaient été enlevés et que moi j'avais été laissé, car pas encore converti. Oui. Il est possible, c'était mon cas, de croire que d'un moment à l'autre, le Seigneur peut revenir et nous enlever et de ne pas encore être chrétien, tout en sachant tout cela. Vous savez, un jour, c'est ce qui va arriver. C'est ainsi que cela va se passer. Maintenant, je suis au Seigneur. Mais qui va rester sur le carreau? Si j'ai mal compris l'intention de ceux qui ont pondu le titre de cette rencontre et qui m'ont aimablement demandé de le traiter, je leur demande de faire preuve de beaucoup d'indulgence. Deux envoyés célestes, sans doute des anges, avaient dit aux disciples médusés qui avaient les yeux encore rivés au ciel où leur maître venait de disparaître dans un nuage lors de l'ascension, ces hommes en blanc leur ont dit qu'ils reviendraient de la même manière qu'ils l'ont vu allant au ciel. Les paroles célestes, angéliques. À mon sens, il manque une précision à ce message, n'est-ce pas? Une toute petite indication, un petit plus, sur la date de ce retour, non? Cela nous arrangerait, n'est-il pas vrai? Sachons cependant que nous sommes dans les temps, hein? Le Seigneur n'est pas en retard, non. Il tarde peut-être un peu, je le concède, alors que beaucoup aspirent à la délivrance et, disons-le franchement, espérer que l'époux soit déjà revenu nous enlever à l'heure qu'il est. Je suis de ceux-là, parfois. Toutefois, l'enlèvement, notre enlèvement, a toujours été imminent. Et il l'est toujours et encore. Imminent. Je le crois et je me réfère aux signes précurseurs, voire pré-précurseurs, voire des pré-signes dont l'Écriture nous parle, mais qui, eux, concernent en premier le retour en gloire pour plus tard, pour après. Alors, voyez-vous, vouloir exposer ce que sera le royaume de Dieu sur la terre après notre enlèvement, après le retour sur terre du roi des rois avec son Église, donc avec nous, pour régner un règne de justice et de paix, relève un peu de l'utopie et ressemble fort à un exercice de funambule théologique. Car vous savez, ce que Dieu va instituer, que dis-je, qu'il a déjà institué, sera et de loin plus profond, plus parfait que nous pouvons comprendre et imaginer, même au travers des textes prophétiques qui traitent du sujet. Un petit coup d'œil, entre autres, nous est donné dans Ésaïe, au chapitre 65 et 66. Et il faudrait encore décider, bien sûr, de quoi le texte parle. Et ce que Dieu décrit, en fait. Dieu dit, « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et comme pour nous donner une petite idée de ce que ce sera, il ajoute, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Il ne se fera ni tort, ni dommage, etc. » Ce royaume institué par Dieu sur la terre ne pourra qu'être tout simplement parfait, une notion qui ne nous est pas possible de saisir. Le prince actuel de ce monde, Satan, sera lié, prisonnier, et dans l'impossibilité d'étendre son influence néfaste, impie, méchante et perverse, avant qu'il ne soit pour un temps relâché. et surtout avant qu'il ne soit pour l'éternité damné et mis de côté. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je lève en quelque sorte un coin du voile pour nous faire voir et pénétrer dans ce royaume de Dieu sur terre, un royaume millénaire, sans la présence ni l'influence du mal, ni de celui qui l'a inventé et promu. Il y a des chrétiens qui déploient de louables efforts pour hâter et promouvoir la venue de ce royaume sur la terre, perdant de vue que c'est le régisseur divin qui est aux commandes. C'est lui qui a la partition en main. Ceux qui espèrent aider le Seigneur dans ce sens-là sont souvent de doux rêveurs qui cherchent à améliorer les lois, les conditions de vie, etc. Grand bien leur fasse, nous en profitons. Je suis de ceux qui croient que les circonstances et les événements terrestres, mondiaux, doivent et vont encore empirer dans des proportions inimaginables. Vous pouvez trouver des éléments descriptifs dans les Écritures, et notamment dans Matthieu 24, sans parler de l'Apocalypse. Je ne veux toutefois pas tenter de lier les prophéties sur le sujet à des faits et à des situations qui font l'actualité. Et pourtant, j'ai le sentiment que cela pourrait être, jusqu'à un certain point, fort opportun, voire même légitime. Sachons que le Seigneur reviendra personnellement. Le texte dit « Ce même Jésus, qui vient de disparaître du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Son retour sera donc visible et tout œil le verra. Il reviendra avec gloire et puissance. Mais auparavant, il y aura eu un événement bouleversant. Jésus dit que comme un voleur la nuit, il vient enlever les siens, son Église bien-aimée, pour laquelle il a donné sa vie, son sang. L'enlèvement donc de l'Église, au moment où Jésus vient nous sortir du monde, est le prochain événement sur l'agenda de Dieu. Aucune autre nouvelle prophétie ne doit encore être accomplie avant l'enlèvement, la disparition de l'Église de dessus la terre. Il s'en suivra, nous l'imaginons aisément, un chaos indescriptible sur la terre, dont les Écritures nous donnent une vision sommaire, bien que catastrophique, effrayante et terrifiante. Satan, il pourra alors s'en donner à cœur joie. Il va instaurer son royaume et son pouvoir. L'Église, avec le Saint-Esprit enlevé, Satan n'aura plus de bâton dans les pattes. Les laissés sur terre, inspirés par Lucifer, vont promouvoir un royaume universel, humaniste et impie. Sous sa houlette, on dira « paix, paix ». Certes, il y aura encore des convertis, des nouveaux récents convertis, qui seront mis à mal par le pouvoir en place, et ce ne sera pas du gâteau, je vous l'assure. L'eschatologie, donc, le temps de la fin, a frappé ses trois coups. Elle est en marche. Il suffit d'ouvrir les yeux et de laisser le Saint-Esprit illuminer le divin texte. Mais, mis à part de rares passages sur ce sujet, la Bible ne dit quand même pas grand-chose. Et ce qu'elle dit dégage souvent un air de langage codé, difficile à déchiffrer. Ce que nous attendons nous est transmis par le Seigneur lui-même, notamment sous la forme de la parabole que nous venons de lire dans Matthieu 25. Un texte dramatique au possible, Des jeunes filles qui vont à la rencontre de l'élu de leur cœur. Illustration de l'Église sur la terre, qui elle aussi est endormie. Un constat évident, aujourd'hui plus que jamais, mais qui attend, je l'espère, la venue du Seigneur, son époux. C'est en tout cas ce qu'elle dit, ce qu'elle prétend. Ce qui interpelle dans cette parabole, qui est l'illustration de ce qui se passera au moment du retour de Jésus-Christ, c'est que l'Église, certes endormie, assoupie, attend, même dans son sommeil, elle attend la venue du Seigneur. Cette parabole est une illustration de ce qui se passera au moment du retour de Jésus-Christ pour chercher, enlever les siens. C'est cette description de l'Église imagée par ces vierges folles et ces vierges sages. Ce qu'en fait qu'une aimablement appelle « jeune fille étourdie » et « jeune fille prévoyante ». Ce sera, j'ai bien peur, bien plus dramatique que ce que ces termes suggèrent. Les sages, les prévoyantes, ont ce qu'il faut. Elles ont leur lampe et l'huile pour éclairer. Elles illustrent les convertis, les chrétiens, en qui habite le Saint-Esprit, qui les éclaire. Celles que le texte appelle « folles » et qu'en fait qu'une désigne comme les étourdies, n'ont que leur lampe, sans huile. Pour être précis, ce sont ces gens qui se disent chrétiens évangéliques, sans avoir encore la réalité dans leur cœur et dans leur vie. Elles ont toutes les vices, les apparences de chrétiens authentiques, mais sans la réalité. Et je vais ici affirmer quelque chose qui pourrait en heurter certains, mais que je me dois de dire au fond. Elles représentent des amis dans nos églises qui sont en danger, car il en est qui ont toutes les apparences d'authentiques chrétiens. La profession de foi correcte, le comportement et les habitudes qui vont avec. Christianisé, on ne peut plus, mais pas encore chrétien, pas encore né de l'esprit, pas encore converti. Oh, j'ai connu de ces amis qui se croyaient chrétiens, qui croyaient certes ce que les chrétiens croient, mais qu'ils n'étaient pas encore devenus. J'ai même connu des pasteurs, des anciens d'église qui se sont convertis, se rendant compte qu'ils ne l'étaient pas encore. Ici en Belgique, au vu et au su de tout le monde. Peut-être vous demandez-vous, mais comment cela est-il possible? Écoutez bien, voici ce qu'eux-mêmes m'ont dit. Et je schématise. Élevé dans un milieu chrétien, éduqué dans la foi, ayant été inculqué des us et coutumes des chrétiens, les ayant assimilés sans grande difficulté et s'engageant, répondant à un besoin jusque dans un ministère pastoral. Je me dois d'éclairer ce que je dis. Les vrais, les chrétiens authentiques, ce sont ceux qui, un jour, à un moment donné, ont reconnu leur besoin de pardon, leur besoin d'un sauveur, et qui consciemment ont éprouvé, convaincus par le Saint-Esprit, du besoin de salut, d'où l'indispensable repentance, et qui, comme ce jeune homme de l'Évangile, se jette aux pieds de Jésus qui crie son besoin de salut, qui, comme cet aveugle, dira Jésus son besoin de voir, qui à l'instar de ce jeune homme dira « Viens au secours de mon incrédulité ». Pour pouvoir se considérer comme chrétien, il doit y avoir eu cette œuvre de Dieu par le Saint-Esprit en nous qui nous convainc de notre état et de notre besoin. Il y a un texte de l'Écriture passablement ignoré, car plutôt violent et entier, mais qui met les points sur les i, sans embâge, et qui dit « Sans repentance, il n'y a pas de salut. » Voyez-vous, la repentance est la suite logique d'une conviction de péché. Il est en effet nécessaire de se voir, de se savoir perdu pécheur pour crier au secours, se repentir. Car si l'on ne se voit pas perdu, damné, pourquoi faudrait-il vouloir être sauvé? De quoi? Un peu d'impertinence. Quand avez-vous, pour la dernière fois, entendu prêcher sur ce texte impressionnant qui intimide et qui effraye dans Romains 3 et qui dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas un qui cherche sérieusement Dieu. Tous ensemble, ils se sont fourvoyés et corrompus. Aucun ne fait le bien, pas même un seul. » Respecter Dieu, cela ne leur vient pas à l'idée. La crainte de Dieu n'a pas de sens à leurs yeux. Aucun d'eux ne prend Dieu au sérieux. Tous ont péché et sont privés de Dieu. Lorsque Jésus revient, et cela pourrait être pour bientôt, il ne prendra que ceux qui sont prêts, que ceux qui attendent, que ceux qui se seront repentis, qui se seront convertis, qui auront compris leur besoin de pardon et de salut, que ceux qui, par la foi, auront reçu Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, dans leur être intérieur. Rien que ceux qui auront été scellés du Saint-Esprit et qui aujourd'hui peuvent parler de ce témoignage du Saint-Esprit, un témoignage intérieur, intime, en eux. Le Saint-Esprit qui leur a dit, qui les a convaincus qu'ils sont devenus enfants de Dieu. L'Écriture dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce sont ceux qui auront expérimenté ce slogan d'opération mobilisation en son temps. Christ dans ton cœur, révolution dans ta vie. Scellés pour le jour de la rédemption, qui auront de l'huile dans leur lampe, ils sont passés de la mort à la vie. Mon épouse, chaque année, fait son petit potager. Elle sème. Et elle attend de voir des fruits, des signes de vie. Les preuves que ces semences étaient valables et portent des fruits. On entend parfois ces gens qui disent aux médecins, « Docteur, dites-moi la vérité. » Si vous êtes dans le doute, priez et demandez à Dieu de vous aider à faire le point. L'enjeu, c'est votre éternité. Seigneur Dieu, où en suis-je? Vous savez, à trop vouloir disséquer le domaine de l'au-delà, entre autres, on risque de passer sous silence le plus important. Où passerez-vous l'éternité dans cet au-delà? Vous savez, ce qui est à venir, ce qui sera dans l'eschatologie, dans la fin des temps, dans l'au-delà et du ressort de Dieu. Il nous en livre des petits bouts de prophétie qui ne nous laissent pas tout à fait dans l'ignorance, qui viennent satisfaire notre curiosité et nous mettre l'eau à la bouche. Mais ce qui importe, c'est de savoir si l'on fait partie de ceux qui sont enlevés et qui reviendront donc pour régner avec lui dans ce royaume de Dieu sur la terre. Cet enlèvement sera soudain, instantané, sans autre événement précurseur, que celui de devoir être prêt. Écoutez ce texte. Si je ne mets pas trop longtemps à le trouver, dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. La parabole lue tout à l'heure nous dit la leçon que nous devons en tirer. Elle se trouve là dans sa conclusion. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Un de nos anciens cantiques nous dit « Du ciel, bientôt Jésus va revenir. » Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants, sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui? Bien entendu, notre recherche, nos études dans les domaines prophétiques sont hautement légitimes, mais assurons-nous que nous entendrons le Seigneur nous dire personnellement « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, car vous savez, il y en aura qui entendront « Retirez-vous de moi, vous que Dieu a rejeté, allez dans le feu éternel, préparez pour le diable et ses anges. » Ils entendront cette parole de rejet malgré leur étiquette de chrétien qu'ils se sont attribués ou qu'on leur aura donné. Dites-moi, qu'allons-nous entendre? Notre enjeu est l'éternité. Possédez-vous le visa qui vous donne le droit, le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu? Avez-vous le passeport spirituel où est indiquée la date de votre naissance, la date à laquelle vous avez été inscrit dans le livre de vie céleste? Je vous invite à vous recueillir. Oh, il y en a beaucoup, probablement la plupart, j'ose espérer presque tous, nous savons où nous allons. Mais il y en a d'autres peut-être qui ne savent pas. Il y en a qui doutent. Ils ont peut-être pris une décision dans le passé, mais cette décision n'a pas fait grand changement dans leur vie. Comme moi, lorsque j'étais adolescent au camp de Limoges, oui, j'avais pris une décision. Quelqu'un avait téléphoné à mes parents pour dire que j'étais devenu chrétien. Mais ma vie de tous les jours n'avait pas changé. Il y avait une décision sans conversion. Y a-t-il eu changement dans ta vie, mon ami? Ton entourage a-t-il vu la différence dans la texture de ta vie? Es-tu certain, es-tu certaine que si le signal donné par Dieu était donné dans quelques instants, que
ta chaise serait vide, tu serais parti. Ou bien resterais-tu sur le carreau? Dans le recueillement, dis à Dieu tout simplement, merci si tu le connais personnellement et intimement. Mais si tu ne sais pas, alors dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dites-le lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, de ton salut. J'ai besoin d'assurance. Pardonne-moi. C'est chacun pour soi. Tu dois prier cette prière toi-même, si tu ne l'as pas déjà fait dans le passé. Seigneur notre Dieu, tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes et tu as entendu ces prières montées vers toi et celles qui notamment t'ont demandé pardon et t'ont demandé d'être sauvé. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce disponible pour quiconque s'approche de toi sincèrement. Tu connais ceux qui t'appartiennent et nous te demandons qu'ils soient conscients du sceau que tu as posé sur leur âme, sur leur être entier, sur leur vie. Donne-leur ton assurance au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Si vous êtes de ceux, de celles qui ont pris cette décision, dites-le à quelqu'un que vous savez être chrétien, ou bien venez me voir après, mais dites-le, rendez témoignage, cela affermira votre position en Jésus-Christ.